À l'heure de l'ubérisation, de la robotisation des tâches et des algorithmes auto-apprenants, un père trentenaire, un brin flippé, s'inquiète de l'avenir professionnel de ses jumeaux de 5 ans. À la rencontre de spécialistes de tous bords, il mène l'enquête sur les divers scénarios qui se préparent pour le travail de demain. Épisode 3.
Le Centre Vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae.
N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Un podcast de Sébastien Disner, à la recherche du travail de demain. Oui, alors je crois que j'ai trouvé un début de projet professionnel pour mes enfants.
Voilà des milliers de soldats de lapins. Ils contrèrent Tortue et Batman.
Je sais, au début on pourrait croire que c'est un simple jeu d'enfant.
Les gardes du château des lapins.
Mais en fait, ils sont déjà en train de travailler.
Regardez. Piscine de lait.
Là.
De vache.
Ils viennent d'inventer un concept.
La machine, c'est pour faire une piscine de lait de vache.
Tu crois que les gens, ils pourraient être intéressés par une piscine avec du lait?
Bah oui, j'adore. Pour se mouiller et boire.
Bon, apparemment, ils ont fait une étude de marché. Hein. J'ai essayé d'obtenir les plans de leur machine et de comprendre comment ça fonctionnait.
Donc, la queue de la vache sert de robinet. Et le lait sort par les cornes, c'est ça?
C'est assez sophistiqué. Hein.
Par tous les cornes et les oreilles.
Ah, et par les oreilles, pour remplir la piscine.
Ils n'ont pas peur des nouvelles technologies.
Non, eux, ils n'ont pas peur des nouvelles technologies, apparemment.
Au début de temps, ils sont dans les cyborgs quasiment.
Quoi. Voilà, cyborgs domestiques et
tout. Ouais.
Comme dit mon ami Vincent...
Ils sont déjà un pas dans l'avenir, là. Ils sont beaucoup plus loin que nous, là, déjà.
Une piscine de lait de vache modifiée, pas sûr que j'arrive à convaincre ma conseillère du futur avec ça. Vous trouvez peut-être que tout ça devient vraiment trop absurde? Eh bien, c'est aussi ce que pense mon amie Sybille du travail en général.
Si tu dézoomes un peu, tu te dis, mais en fait, le concept même du travail, quelque part, c'est absurde en fait. Moi, si je devais militer, je militerais plutôt pour la fin du travail.
Pour la fin du travail?
Oui.
Et comment on survit alors?
Peut-être qu'on pourrait réinventer autre chose.
Ah ouais? Tu verrais quoi, toi?
Bah écoute, je vais plutôt te poser la question si tu me dis que t'es en train de...
De réaliser un podcast sur la question? Merci Sybille de me confier une tâche aussi simple. En tout cas, c'est l'occasion de se débrancher, le temps d'un épisode. Se débrancher des trois scénarios de Dominique Méda, on la retrouvera dans l'épisode suivant. Mais surtout, se débrancher de l'obsession du travail. Tiens, à ce propos, je vais éteindre mon smartphone... Bye bye les notifications de ma conseillère du futur, ça me fera des vacances. Inventer une alternative au travail. Mais pour commencer, récapitulons où on en était. L'épisode précédent examinait le scénario de l'automatisation du monde. Avec la philosophe Antoinette Rouvroy, on en était venu à la conclusion que la technologie devrait nous libérer du temps au lieu de nous en prendre toujours plus. C'est aussi ce que pensait en son temps un des principaux penseurs du travail.
Marx a imaginé dans un texte qui n'est pas dans le Capital, mais qui est dans les textes de préparation au Capital.
Ça, c'est le philosophe Marc Hunyadi.
Qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « Fragments sur les machines ». Il a imaginé, dans une espèce de fulgurance anticipatrice, que tout ce qui concerne la reproduction matérielle de la société, donc en gros tout ce qui concerne le travail économique, la création de richesses, serait automatisé. Ce qui pour lui était une très bonne nouvelle, parce que s'il n'y a plus besoin de travailleurs pour travailler, il n'y a plus personne à exploiter. C'est aussi simple que ça. Et donc, il voyait ça d'un très bon œil. Il disait, au fond, voilà, c'est l'automatisation, en fait, va permettre de réaliser l'utopie du travail libéré.
Le travail libéré, tiens. C'est peut-être une piste, ça, pour mon scénario de la réinvention du travail. Mais avant d'y revenir, j'ai demandé à Marc Hunyadi si on ne pouvait pas, je ne sais pas moi, comme le disait mon ami Sybille, simplement mettre fin au travail.
Notre existence ne nous est pas donnée, notre existence ne va pas de soi. On n'est pas juste posé là et puis on peut se nourrir, se protéger. Pas du tout. Pour se nourrir, pour se protéger, pour vivre, il faut faire quelque chose. Se faire quelque chose, Marx l'appelle le travail. C'est le travail dans son sens le plus général.
Et c'est vrai que rien ne vaut ce bon vieux Karl Marx pour mettre le doigt là où le travail fait mal dans nos sociétés capitalistes.
Le problème étant que sous le régime capitaliste, industriel, eh bien, ce travail a été réduit extraordinairement. Et au fond, ce n'était plus du tout un travail qui servait la vie, c'est devenu un travail qui servait l'économie. Et chaque individu était au fond aliéné à un système qui l'exploitait, qui exploitait sa vie à lui au profit du système. Mais ce qui gouverne secrètement, si vous voulez, toute cette analyse de l'aliénation capitaliste, c'est bel et bien cette idée d'un travail libéré.
Dans cette conception du travail libéré, le travail est enfin tel qu'il aurait dû toujours être, chez Marx en tout cas, l'épanouissement total de l'être humain. Mais alors, à quoi ça ressemble ce travail libéré? Est-ce qu'on en est si loin? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on peut s'en inspirer?
Chez le tout jeune Marx, là on est en 1843, donc il a 25 ans, et il écrit un texte extraordinaire, parmi des notes de lecture qui concernaient autre chose. Tout d'un coup, manifestement, il a une intuition, il a une espèce de fulgurance géniale, et il écrit une page où il imagine ce que serait que le travail libéré. Il commence ce texte en disant « Supposons que nous produisions comme des êtres humains. »
Supposons que nous produisions comme des êtres humains.
Puisque ce travail ne s'effectue qu'en tant qu'humain, et non pas en tant que serviteur de tel ou tel système économique, féodal ou capitaliste, eh bien, ce sera un travail authentiquement humain, donc ce sera un travail libéré. Donc c'est une supposition. Il se rend bien compte que ce travail n'a pas existé. Peut-être n'existerait-il jamais. Ce n'est pas une observation qu'il fait, puisque ce travail libéré, on ne l'a pas sous les yeux.
Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre.
Au lieu que l'ouvrier, le travailleur, s'épanouisse, encore une fois, on le découpe en quelque sorte comme une tranche de salami, on ne prend qu'une seule partie de ses compétences, qui sont en général des compétences musculaires, tout simplement, donc des compétences que toute personne peut avoir, et on l'exploite au maximum. Le critère, ce n'est pas la nature du travail, le critère, c'est la personne elle-même, l'individu lui-même, c'est-à-dire ce qui l'épanouit. Et dans un texte célèbre, il dit « Moi, je vais être chasseur le matin, cueilleur l'après-midi, philosophe critique le soir. »
Chasser le matin, pêcher l'après-midi, m'occuper d'élevage le soir, m'adonner à la critique après le repas du soir. Selon que j'ai envie, sans jamais devenir chasseuse, sans jamais devenir pêcheuse, bergère ou critique.
Pouvoir s'épanouir dans tout, mais pourquoi pas être poète, agriculteur, bricoleur, que sais-je. Tout ça doit contribuer à cet épanouissement sur toute la gamme de ses propres possibilités. Mais les possibilités de l'individu, c'est l'individu qui les définit. Une chose importante à dire, c'est que, contrairement à toutes les balivernes qu'on peut dire sur le marxisme, si vous voulez, tel qu'il s'est réalisé, qu'il est nivelant, etc., c'est tout le contraire. Marx est le penseur le plus individualiste de toute l'histoire de la tradition occidentale. Mais, évidemment, ce n'est pas un individualisme comme on le connaît nous, l'individualisme libéral où chacun est dans sa bulle, etc. Pas du tout. C'est un individu épanoui dans toute la gamme des relations avec les autres. Donc, c'est la figure d'un individualisme relationnel, on pourrait dire, puisque le but ultime, au fond, c'est le travail libéré sous la forme de l'association libre des travailleurs. Eh bien, au fond, c'est les travailleurs qui choisissent leur travail, tout simplement. Et je dirais même plus, leurs travaux. Dans une société telle que Marx l'imagine, ben, on fait ce qui peut satisfaire l'existence même. C'est ça son critère.
Mais bon, ce travail libéré chez Marx, c'est quand même une sorte d'utopie. Enfin, ce n'est pas comme ça que dirait Marc Hunyadi.
Ce n'est pas véritablement une utopie, vous voyez, c'est une fiction productive, au sens que c'est une fiction qui nous permet de nous orienter.
Et en même temps, cette fiction pourrait ressembler à quelque chose de beaucoup plus concret, dont on parle énormément aujourd'hui.
édition spéciale.
L'allocation universelle.
1er janvier 2035.
Ou revenu de base.
C'est officiel.
Ou dividende social.
L'allocation universelle
est officiellement adoptée en Belgique.
Son adoption dans un futur proche en Belgique, c'est une fiction ? Eh bien, pas forcément, selon une publication prospective de Natacha Dupont, qui examine l'impact de l'allocation universelle en Belgique dans un futur proche.
Que se passe-t-il en 2035, après perception de ce revenu ? Qu'est-ce que le citoyen va changer dans son rapport au travail ? Je m'appelle Natacha Dupont, j'ai 46 ans, et donc actuellement je suis collaboratrice auprès des chevins écolos à la ville de Tournai.
Alors déjà, comment faut-il dire allocation universelle, revenu de base, dividende social ?
Oui, en fait, il y a plusieurs dénominations. Je pense que chaque penseur qui a établi un modèle et qui a voulu détailler sa pensée et sa façon de concevoir l'allocation universelle, lui a donné un nom différent.
Et cette idée d'allocation universelle s'est apparue quand ?
On retrouve les premières traces en 1516 avec Thomas More. Donc lui, son idée, c'était de donner un revenu pour diminuer le taux de criminalité.
Attendez, Thomas More, c'est pas celui qui a inventé l'idée de l'utopie ? Donc c'est bien ce que je pensais, l'allocation universelle est utopique.
Pour certaines personnes, c'est une utopie. Pour moi, ça ne l'est pas. Et pour les penseurs qui ont mis au point des modèles réalisables dans nos pays, ça n'est pas une utopie.
Mais c'est un modèle social, un modèle de gauche.
Mais ça peut être de droite aussi. Donc moi, j'ai plus travaillé le revenu de base de Philippe de Feit.
Rappelons que Natacha Dupont travaille pour Écolo, le parti de Philippe de Feit.
Et je me suis intéressée aux dividendes sociaux de Georges-Louis Boucher.
Là, on est chez les libéraux. À droite, donc.
Le modèle de Philippe de Feit est quand même un modèle de gauche. Il garde tout un système assurantiel à côté de ce qu'il appelle ce revenu socle. Et donc, lui prévoit tout un système assurantiel pour faire face aux accidents de la vie. Donc là, quand on a un système assurantiel, ça veut dire qu'il y a encore quand même un système de sécurité sociale qui est encore existant et où la... Tous les citoyens participent, la société est toujours là pour aider le citoyen en cas d'accident, de pépin dans la vie. Donc la personne qui perdrait son emploi tout en bénéficiant de son revenu de base pourrait bénéficier d'une allocation. La personne qui connaît à un moment de sa vie des gros problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler pourrait bénéficier d'une aide. Donc ce modèle-là, moi je le situe à gauche. À droite, on a le modèle de Georges-Louis Boucher, très libéral, puisqu'il propose de donner un montant plus élevé aux citoyens, un montant qui avoisine les 1 000 euros. En tout cas, en 2018, c'était 1 000 euros. Donc, il propose de donner ce montant-là aux citoyens, et puis le citoyen en fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que le citoyen va devoir prendre l'initiative et va donc devoir avoir la réflexion et l'intellect nécessaires pour s'assurer contre les accidents de la vie.
Cette idée d'allocation universelle est un peu sulfureuse, non ? Alors, c'est quoi les principales critiques que lui adressent ses opposants ?
Leurs critiques se rejoignent, généralement, vis-à-vis d'un point assez essentiel. Pour eux, donc, ils voient la disparition des services publics. Et leur grande inquiétude, c'est aussi la valeur au travail. Donc, des sociologues comme Matteo Alalouf ou Dominique Méda. Donc, leur sentiment, c'est qu'on ne va plus se battre pour des conditions de travail acceptables. Donc, eux voient ça comme la fin d'un conflit social, donc comme une menace.
Ce qui donne, avec les mots de Dominique Méda elle-même...
Plus généralement, ce qui me gêne dans le scénario du revenu universel ou de l'allocation universelle, c'est que très vite, ça nous amène à remettre en cause nos systèmes de protection sociale, qui sont des systèmes collectifs, socialisés. Et je pense qu'évidemment, ce serait extrêmement grave. Donc, je suis plus en faveur de mécanismes qui permettent, évidemment, de donner un revenu minimum à chacun lorsqu'il est en difficulté. Je serais plus, si vous voulez, pour une forme de droit à l'emploi.
Mais je crois qu'on n'en a pas encore fini avec les opposants.
Ils nous parlent aussi d'une pression vers les bas salaires, que les personnes peu formées devraient accepter un peu n'importe quel boulot pour pouvoir compléter leur revenu de base ou leur dividende social. Tout ça est quand même dans une optique très négative. Et le point qui revient quand même très régulièrement chez les opposants, c'est le retour de la femme au foyer. Certaines femmes travaillent à temps plein, mais beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. Ce serait plus facile de ne plus travailler du tout, de revenir au foyer, donc de ne plus avoir accès au marché de l'emploi, de se refermer dans une bulle familiale, et donc avec les conséquences qui pourraient être néfastes, d'isolement, de voilà, perte de contact avec le monde extérieur. Ça, c'est un argument qui revient quand même très fréquemment.
C'est quand même pas rien, toutes ces critiques. Est-ce que dans ces conditions, on arrive encore à défendre l'allocation universelle ?
Moi, je reste positive par rapport à cette idée parce que le nombre de familles monoparentales augmente. Prenons l'exemple d'une femme avec plusieurs enfants, ça peut être un homme et ses enfants aussi, qui reçoit un revenu de base. Je pense qu'elle va maintenir son emploi à temps partiel ou à temps plein et elle pourra vivre de manière plus confortable avec ses enfants. Donc, dans ce cas de figure-là, moi, je reste positive et je n'ai plus l'image de la femme qui a envie de rester au foyer. Mais je pense que de plus en plus de personnes se forment, reprennent des cours et principalement des femmes aussi. Et je trouve que garder cette idée de femme qui retourne au foyer, je trouve que c'est quand même une image très ancienne. Moi, ce n'est pas l'image que j'ai de la femme actuelle.
Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que l'allocation universelle ou une de ses variantes, c'est ce qui se rapproche le plus dans le monde concret de l'idéal du travail libéré de Marx, dont on parlait en début d'épisode? En tout cas, ils ont au moins un autre point commun. C'est d'être souvent associé à l'idée de l'automatisation du monde du travail.
En effet, l'automatisation du travail, la robotisation, nous amène à penser qu'on va aller vers une raréfication du travail. Et c'est un point qui a été relevé par Georges-Louis Boucher dans son modèle, où il n'y aura peut-être plus du travail pour tout le monde, et donc il faut penser les choses autrement.
Bon, même si c'est bizarre de rapprocher Karl Marx et le très libéral Georges-Louis Boucher. L'automatisation des tâches, le découplage de la valeur économique du travail et du salaire, c'était déjà des idées que Marx imaginait dans son fragment sur les machines évoqué plus tôt et qui devaient, souvenez-vous, aboutir à la réalisation du travail libéré.
Dès que le travail a cessé d'être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse et doit cesser d'être sa mesure.
C'est un texte qui a une force comme ça, très, très prophétique.
Pourtant, cette prophétie de Marx date du 19e siècle. Or, depuis, l'automatisation des tâches n'a cessé de croître. Donc, logiquement, si Marx avait vu juste, le travail libéré, on devrait déjà y être, non? Alors, où est-ce qu'on a raté quelque chose?
Malheureusement, je crois que voilà une prophétie qui ne va pas se réaliser. En tout cas, pas comme Marx l'a pensé. Je vais vous dire pourquoi. Tout le texte de Marx est traversé par un implicite fondamental, qui est que le monde du travail, celui qui va être entièrement automatisé, est parfaitement séparé du monde de la vie privée, hors travail, comme si c'était cloisonné. Donc voilà, on aura ces automates merveilleux, et ben voilà, ils pourront nous dispenser du travail, et puis par ailleurs, tous ceux qui étaient jusque-là exploités n'auront plus besoin de travailler, et pourront vaquer dans leurs activités diverses et variées. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent. Parce qu'il n'y a précisément pas ce partage entre le monde du travail et le monde de l'existence courante. On voit bien que le numérique n'est pas cloisonné au monde du travail. Le jour où on arriverait à automatiser entièrement les tâches de travail, ce sera parce que toute la société aurait été soumise déjà à l'automatisation.
Ce qui cloche avec la prophétie de Marx, c'est que ce n'est pas seulement le travail qui a été automatisé, mais également tous les moments de loisirs. Et les loisirs, les vacances, dans le monde du travail aliéné qui est encore la norme aujourd'hui, c'est très important. Mais si on imagine que c'est le travail libéré, l'allocation universelle, tout ça, qui s'impose dans le futur, les vacances, ça se passe comment ?
Tu fais quoi pour les vacances, toi ?
Ah, je vais travailler à l'usine.
Oh, la chance ! Mais tu veux dire virtuellement, en fait, en télétravail?
Mais non, Non, je vais travailler dans une vraie usine.
Attends, mais c'est ce truc-là, comment ça s'appelle? C'est un working park, là? Où tu peux rejouer les conditions de travail de l'époque pendant une heure?
Mais non! Non, pas du tout! Je te parle d'une vraie usine où il y a encore des vrais êtres humains qui sont exploités et tout.
Ça existe encore?
Mais oui! Il y a encore quelques pays au monde où ça existe.
Et comment t'as fait pour dégoter un plan pareil? C'est genre une antiquité, ce plan vacances. Ça a dû coûter fortune.
Bah oui, carrément. Ça fait des années que je rêve de savoir ce que ça fait, tu vois. Le travail aliéné, tout ça. Et j'ai pu avoir le must. Je suis même pas sûre que tous les travailleurs soient majeurs dans l'usine, t'imagines? L'exploitation à l'ancienne. Franchement, la vraie vie. Bon, et toi alors?
Bon, moi, rien de spécial. Comme d'habitude, quoi, je vais faire un tube.
Eh, bah c'est super, non? J'ai jamais fait, moi. Bah, à l'époque, tout le monde jurait que par ça.
Ouais, ben, le problème, c'est que tout le monde l'a fait. En fait, ouais, c'est devenu hyper banal, quoi, hyper cheap comme vacances. Les paroles, c'est un ordinateur qui te propose. À partir de tes intérêts, tu vois, sur les réseaux sociaux, l'analyse des mots que t'as pu liker, tes rêves, t'as le correcteur de notes, hop, et je te jure, je chante, mais vraiment, mais comme un dieu, quoi. Et, bah, si, faudrait que t'écoutes. Ça m'est même arrivé une fois, la chanson, elle a fait un carton, quoi. Mais bon, juste pendant un jour, parce qu'après, bon, bah, y a tous les autres. Et du coup, je crois que je préférerais vraiment suer à fond sur une vraie machine, tu vois, dans une usine authentique. Puis, je sais pas, tu vois, même avec un contremaître qui te menace avec le foie et tout, tu vois, contre qui tu puisses vraiment te révolter, tu vois.
Pourquoi t'écris pas ta révolte dans tes chansons?
Et tout le monde le fait, en fait. Tu sais, avec le deep learning, maintenant, les algorithmes, ils te proposent des trucs hyper pointus en termes de révolte, quoi.
Bah, pourquoi tu fais pas une chanson sans passer par un algorithme?
Attends, t'as déjà essayé de jouer de la guitare, vraiment, quoi? T'as la corne, après, tu peux même te choper une tendinite, là, quand tu fais les barrés, là, tu vois? Non, mais j'ai renoncé, quoi.
Moi, je t'avoue que j'ai déjà prévu 2 mois pour me remettre de ma semaine à l'usine, alors... On a des corps qui sont plus habitués à ça, donc... Faut que j'y aille mollo, moi aussi.
Ouais, t'as raison. En même temps... Je pourrais peut-être quand même réessayer de jouer de la guitare. Je demande à l'algo de pas corriger les fausses notes. Ça pourrait faire même un style, tu vois.
Ouais. Ça peut même être assez révolutionnaire, ça, comme idée, non?
Pour le révolutionnaire, on repassera. Mais j'ai réuni mes enfants pour essayer de faire un tube. C'est pas encore ça. Peut-être qu'on aurait besoin d'un algorithme. Ou pas. Peut-être que c'est mieux sans, finalement. Peut-être qu'on peut voguer vers le sauvage. Je crois que c'est ce qu'on va faire au prochain épisode. Un épisode où l'on découvrira enfin le dernier scénario de Dominique Méda et où je finirai peut-être par trouver le futur métier de mes enfants. Allez, je prends les paris.
Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner. Mise en onde, Aurélien Lebourg. Sound design, Anne Lepère. Musique originale, Fièvre. Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton. Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard. Direction de production, Joël Kurtz. Avec, par ordre d'apparition, Marc Ougnadi, Natacha Dupont et Dominique Méda. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein et Vincent Tolomé. Coach Cœur, Maya Yentar. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de la CSR.